France Inter.
Ce soir, eh bien, c'est une sorte de post-scriptum ou de complément, si vous préférez, à la série d'émissions consacrée à Bob Dylan que vous avez entendue la semaine dernière. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. C'est parti.
Just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny. And you put the load right on. I saw Carmen and the devil walking side by side. I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company? Put the load right on me. Crazy Chester followed me and he cut me in the fall. He said, I will fix your rat if you take Jack my dog. I said, wait a minute, Chester.
The Weight comme le fardeau, c'est la chanson qui a révélé à la fin de l'année 1968 une formation nord-américaine qui se faisait simplement appeler The Band, c'est-à-dire le groupe ou l'orchestre. The Band a joué un rôle de premier plan dans la musique du début des années 70, quoique d'une façon inattendue, voire paradoxale, je vous en dirai deux mots. Si je vous en parle ce soir, c'est parce qu'on vient d'apprendre la mort du dernier survivant du groupe, Garth Hudson. Et je tenais vraiment à lui rendre hommage ce soir, et pas que pour Bob Dylan. Parce que bien sûr, c'est grâce à Dylan que ces musiciens, tous canadiens à une exception près, se sont fait connaître. En effet, ce sont eux qui l'ont accompagné lors de sa fameuse tournée controversée de 1965-1966, où Dylan se présentait comme un chanteur au sein d'un groupe de blues et de rock qui jouait donc sur des instruments électrifiés, un choc pour beaucoup. C'est Dylan qui a fait connaître cet orchestre, mais The Band a évidemment eu une carrière autonome et prestigieuse. Alors, Garth Hudson, au sein de The Band, c'était bien plus qu'un accompagnateur, hein, au clavier, au saxophone et à divers instruments d'ailleurs. C'était un musicien au profil tout à fait singulier, voire étonnant. Il a été de fait le maître de musique du band. Alors je me permets une comparaison qui, je l'espère, parlera à certains. C'est un peu comme si George Martin, le réalisateur artistique qui était chargé, beaucoup le savent, de superviser les enregistrements des Beatles, avait fait partie du groupe à part entière et s'était produit sur scène avec eux. Alors, je viendrai bien sûr au parcours de Garth Hudson, mais d'abord, il me faut éclairer la façon dont on a découvert ces musiciens, dont même Bob Dylan a découvert ces musiciens avant qu'ils ne volent de leurs propres ailes. Oui, comment ces Canadiens qui venaient de la ville de Toronto et que personne ne connaissait à New York, en sont-ils arrivés déjà à devenir le groupe de scène de Bob Dylan? Eh bien, voici l'histoire. En 64, un certain John Hammond Jr. découvre enthousiaste un groupe jouant dans un bar à Toronto. Cet excellent guitariste de blues, John Hammond Jr., n'est autre que le fils d'un autre John Hammond Sr., l'homme qui, au service des disques Columbia à New York, a découvert et soutenu Billie Holiday, et oui, ainsi qu'une trentaine d'années plus tard, Bob Dylan et même Leonard Cohen. Et oui, c'était le même homme. Le fils de Hammond, donc John Hammond Jr., parle avec ferveur à Bob Dylan, qui connaît bien, de ces musiciens canadiens qui savent jouer tous les styles traditionnel américain avec un feu et une énergie sans pareil. Bob Dylan les découvre à son tour et il partage l'enthousiasme de son camarade John Hammond Jr. Et bientôt, eh bien, Dylan va intégrer une partie de ses musiciens et puis leur globalité à son groupe de tournée, celui donc avec lequel il va entamer une tournée mondiale en 1966. Hein, le reste, évidemment, appartient à l'histoire. Alors, d'où venaient ces musiciens ? Sous le nom des Hawks, les Faucons, eh bien, ces gars accompagnaient dans la ville de Toronto, depuis l'âge de 15 ans, pour les plus jeunes d'entre eux, un certain Ronnie Hawkins. Hawkins, un chanteur de rock'n'roll qui venait du sud des États-Unis, de l'état de l'Arkansas, pour être précis, un gars pas commode d'ailleurs qui les avait menés à la baguette. Alors, avant que je vous raconte comment et pourquoi aussi Garth Hudson et The Band ont été à même de développer cette approche traditionnaliste des musiques américaines avec un tel brio, eh bien, il me faut dire un mot sur la chanson que vous venez d'entendre, The Wait, et qui a révélé la musique de The Band à part entière, sans Bob Dylan. The Wait, c'était une sorte de gospel qui traduisait de façon poétique l'expérience de celui qui l'avait écrit, à savoir le guitariste canadien Robbie Robertson. Quand celui-ci est arrivé pour la première fois à Memphis, dans le Tennessee, creuset de toutes les musiques traditionnelles américaines, il a découvert pour la première fois ce sud profond qui était pour lui l'objet d'un fantasme. Il a mis en effet en scène un personnage de voyageur cheminant sur les routes et débarquant dans une ville du nom de Nazareth. Le personnage de la chanson veut rendre service à tout le monde pour se faire accepter, mais les choses tournent mal pour lui. Il a accepté en effet de se charger d'un fardeau, c'est le weight en question, fardeau qu'on lui a confié. Il se rend compte, mais trop tard, que c'est sans doute pour lui une malédiction. Voici une autre chanson qui figure dans le premier album de The Band, Music from Big Pink, donc sorti en 68, et s'appelle I Shall Be Released, Je Serai Délivré, une composition qui était alors inédite de Bob Dylan, qui résonnait comme un hymne. Et je vous raconterai tout à l'heure comment Bob Dylan et The Band, après cette tournée de 66, ont poursuivi une collaboration demeurée légendaire. I remember. Chanson country, Long Black Veil, reprise et interprétée en 1968 par le groupe The Band, pardon pour le pléonasme, dans son premier album qui s'appelait Music from Big Pink. Je vous expliquerai tout à l'heure l'origine de ce titre. Un album de chansons marquées par différents styles américains traditionnels, notamment country, on vient de l'entendre, et qui a été cet album, pour ainsi dire, à la source d'une révélation pour les musiciens de rock de premier plan de la période. Les Rolling Stones, Eric Clapton, George Harrison, qui cherchait à échapper en ce temps-là aux Beatles et à s'imposer par lui-même, il y est magnifiquement parvenu. Et bien tous étaient passionnés par The Band. Il faut aussi mentionner les débuts de Elton John, profondément marqués par le style donc de The Band. Alors pour revenir à George Harrison, dans le documentaire dont je vous ai souvent parlé, assez récent, assemblé par Peter Jackson, qui montre les Beatles au travail en janvier 69, hein, ça s'appelle Get Back, eh bien on voit justement George Harrison, de retour des États-Unis, parler avec enthousiasme de ces musiciens qu'il vient de découvrir grâce à son camarade Bob Dylan. Dylan qui, comme je vous le disais, allait durablement lier son destin à celui de ces musiciens canadiens. Alors je rappelle le contexte de tout ça. En cette fin d'année 68, période de parution de l'album donc Music from Big Pink, les envolées du rock psychédélique, ces longues improvisations cosmiques, ces surenchères de bruits et d'effets spéciaux commencent à en lasser certains. La musique de The Band, eh bien pour cela, elle marque une sorte de retour rafraîchissant aux sources des traditions américaines. Alors, retour, c'est pas tout à fait le mot pour ces musiciens très jeunes, hein, encore, imprégnés par la contre-culture de la période. Il s'agit de découverte, en fait, et d'exploration d'une sorte d'archéologie créatrice, pour ainsi dire. Oui, parce que Robbie Robertson, donc il lui avait grandi à Toronto, posait sur ces traditions qu'il ne connaissait pas le regard fasciné d'un explorateur, enfin d'un voyageur étranger en tout cas. Puisque ce Canadien et ses camarades, donc de Toronto, ont en effet grandi, hein, hormis le batteur-chanteur Levon Helm, je vous le disais, il était arrivé quant à lui de l'Arkansas avec le chanteur Ronnie Hawkins, eux, ils avaient grandi loin de ce sud profond des États-Unis. Et Robertson en avait une vision livresque et même cinématographique, en grande partie alimentée par les récits de Levon Helm. Et c'est sans doute Levon Helm qui a fait connaître à Robertson, comme aux autres membres de The Band, The Long Black Veil, la chanson qu'on vient d'entendre, le long voile noir. C'est une chanson qui a été rendue populaire par un des grands noms de la chanson country, le Texan Lefty Frizzell, disparu prématurément au milieu des années 70. beaucoup ont pu le considérer à juste titre d'ailleurs comme un des plus grands de l'envergure de Hank Williams. Faut rappeler que la musique country n'a alors pas du tout bonne presse auprès des hippies de la période et d'ailleurs des amateurs de rock en général. The Long Black Veil, ce long voile noir, c'est celui que porte la femme adultère quand elle vient visiter la tombe de son amant. Cette chanson a été reprise par Mick Jagger, et également par Nick Cave, ce qui est peut-être au fond moins surprenant. Alors le premier album que va signer donc The Band sans Bob Dylan s'appelle Music from Big Pink. Oui, Big Pink, la grande rose, c'est le nom familier, tout simplement parce qu'elle est peinte en rose de la maison où vivent alors en communauté ces musiciens canadiens sur les hauteurs autour du village de Woodstock. Alors pour comprendre le contexte, il faut faire un petit retour en arrière en un petit peu plus de 18 mois. En effet, les musiciens canadiens se sont installés au début de l'année 1967 dans cette maison perdue dans les bois, sur les hauteurs donc du célèbre village de Woodstock au nord de New York, et ils ont pour habitude d'improviser et de répéter dans la cave. Et Bob Dylan, en voisin, passe souvent les voir et il descend donc fréquemment avec eux dans le studio d'enregistrement installé dans la cave. Toute une mythologie prend alors naissance. On sait en effet que le chanteur a dû annuler la fin de sa tournée à la suite d'un accident de moto, et on sait, parce que évidemment les rumeurs circulent très vite, que Dylan enregistre des chansons avec The Band, des chansons que Dylan se refuse à publier, mais on sait qu'elles existent parce qu'il les transmet à d'autres interprètes qui en font des succès, notamment le groupe Manfred Mann avec The Mighty Quinn. En tout cas, des fuites ont lieu, et ces basement tapes, ces séances de la cave, acquiert un statut mythique. Un double album pirate vendu à prix d'or fait découvrir à des chanceux, des initiés, ces enregistrements donc issus des caves de Big Pink, qui sont d'ailleurs des versions de travail, des répétitions. Et pendant des années, d'ailleurs, la demande restera extrêmement forte et pressante pour que Dylan publie lui-même ces enregistrements. Et de guerre lasse, la firme Columbia finira par publier ses Basement Tapes en 75 sous la forme d'un double album. C'était avant tout pour casser le marché des pirates. Fin 68, on est un petit peu plus tard, beaucoup de Dylanolâtres se précipitent sur Music from Big Pink, évidemment sur la foi de la réputation de The Band, et ils ont de la chance parce qu'ils vont découvrir trois nouvelles chansons inédites de Bob Dylan, Tears of Rage, I Shall Be Released, qu'on a entendu, et aussi This Wheel's on Fire, que a récemment créé en Angleterre, à Londres, Julie Driscoll. Cependant, quand au début de l'automne 69, The Band publie son album suivant, le second sans titre, le groupe s'est affranchi de la tutelle et des compositions de Bob Dylan et trace clairement son propre chemin. Voici une composition de Robbie Robertson qui s'appelle Up on Cripple Creek, chantée par le batteur Levon Helm, une des trois voix du groupe, et quelle voix! C'est vraiment elle qui a permis vraiment d'imposer l'identité de The Band. Alors vous allez l'entendre, c'est surprenant, c'est un rhythm and blues funky au parfum de la Nouvelle-Orléans. Et Up on Cripple Creek donnait vraiment en 69 un son et un souffle moderne, un style traditionnel. The Band, ce soir, dans Very Good Trip sur France Inter, pour un hommage à son cofondateur, Garth Hudson. When I get off of this mountain, you know where I wanna go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico. Charles, Louisiana, little Bessie girl I once knew. And she told me just to come on by if there's anything that she could do. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leak. She mends me, I don't have to speak. And she defends me a drunkard's dream if I ever did see. She bet on one horse to win, and I bet on another to show.
Trip. Sur France Inter.
The Night They Drove Old Dixie Down, une chanson qui figurait dans le deuxième album signé par The Band en 1969, une chanson qui a été reprise d'ailleurs 2 ans plus tard par John Baez. Garth Hudson et les musiciens du Band étaient, comme je vous l'ai dit, tous canadiens, à l'exception donc du batteur Levenhelm. Et Levenhelm avait parlé donc à Robbie Robertson de sa mémoire familiale, la mémoire du Sud, et évidemment elle incluait la guerre de sécession. Et Robbie Robertson, passionné par tout ça, était allé se documenter en bibliothèque pour créer cette chanson dont il avait composé la musique avant d'en trouver les paroles. Alors qu'est-ce que ça raconte, The Night They Drove Old Dixie Down? Eh bien, la chanson met en scène un pauvre blanc qui a tout perdu, son travail, son pays, son mode de vie, son identité, sous les assauts de l'armée du Nord, l'armée Yankee. Ce qui est frappant, en tout cas quand on écoute cette chanson signée par The Band, c'est la puissance de l'orchestration. Ils sont que 5 et pourtant, on a l'impression, je ne sais pas, qu'ils sont 3 fois plus, une vraie fanfare, et la chanson qui avance comme une procession prend une dimension visuelle, voire cinématographique. Un des aspects les plus remarquables au sein du Band, c'est que les musiciens jouaient chacun de plusieurs instruments et chantaient à tour de rôle. Le batteur Levenhelm avait cette voix nasale, haute, plaintive, du Sud. Il se levait d'ailleurs régulièrement de son tabouret de batteur aussi pour gratter une mandoline ou une guitare. Rick Danko, le bassiste, chantait très très bien d'ailleurs, et il prenait quant à lui à l'occasion son violon ou son trombone. Quant au pianiste Richard Manuel, qui chantait d'une voix si chaleureuse, proche du gospel, eh bien il jouait également du saxophone et de l'harmonica. Quant à Garth Hudson, le doyen de la bande, eh bien c'était un incroyable homme orchestre. Né en 1937, il jouait de toutes sortes de claviers. Il a aussi été un pionnier du sampling. Et puis alors il jouait également de l'accordéon, de la trompette, du violon, de divers saxophones. Enfin la liste est très longue. Si vous regardez le film The Last Waltz, qui est la mise en scène du concert d'adieu de The Band, donc en fin 76, eh bien Garth Hudson a une présence extraordinaire avec sa barbe et son air un peu halluciné. Il a l'air d'une sorte de Poséidon sorti des mers. Dernière chose importante à souligner au sujet de ces musiciens, c'est pas négligeable, et au fond ça allait très bien avec leur musique. Ils avaient quoi quand ils ont été connus, entre 25 et 30 ans, mais délibérément sur leurs photos, délibérément aurait-on dit, ils faisaient plus vieux que leur âge. Le portrait de groupe qui orne la photo du second album que Saint The Band, c'est un cliché sépia qui montre 5 gars moustachus, barbus, les yeux cernés, l'air méfiant, comme usés avant l'âge. Ils ont des visages et des expressions qui semblent sortis de la guerre de sécession, et leurs vêtements ont cette austère neutralité bien éloignée de la période psychédélique. Des hommes et non des jeunes, entre guillemets, aux antipodes des musiciens hippies aux cheveux longs et à l'allure androgyne.
them start all over again. For the life we chose, in the evening we rose, just long enough to be lovers again. And for nothing more, the world was too sore to live in. Sad old ships, a morning eclipse. I spent my whole life guessing. Then I turned from the sun and saw everyone searching. The hoot owl and his song will bring you along. Where else on earth would you wanna go? We can leave all this hate before it's too late. Why would we wanna come back at all? Cobwebs on my pillow, I'm found in the willow. I'd spend my whole life sleeping. To be called by noon is to be called too soon today. The storm is past, there is peace at last. I'll spend my whole life sleeping. Now there's not a sound, no one to be found anywhere. The shepherd and his sheep will wind you to sleep. Where else on earth would you wanna go? To a land of wonder when you go under. Why would we want to come back at all?
Sleeping, une chanson signée The Band et qui met en valeur la très belle voix du pianiste du groupe Richard Manuel. Une chanson qui figurait dans l'album Stage Fright, le troisième de The Band, paru en 70, mais dans une version différente, enrichie d'un accompagnement rythmique. Et là, vraiment, sans la rythmique, c'est beaucoup plus fort. Alors, juste un mot à propos de Robbie Robertson. Justement, il s'est chargé en 2020 de préparer une nouvelle édition de l'album Stage Fright pour les collectionneurs. Et c'est comme ça qu'il a déniché l'excellente version de Sleeping, qu'on vient d'entendre, comme je vous le disais, plus puissant dans sa nudité que l'original. Richard Manuel, tristement, a mis fin à ses jours en 1986, hein, 10 ans après la fin du groupe, qui était due avant tout à l'épuisement de ses membres, qui, depuis l'âge de 15 ans, pour le plus jeune, n'avaient jamais cessé de jouer en tournée sur les routes sans répit et n'en pouvaient absolument plus, surtout qu'ils avaient consommé pas mal de stimulants au sens très large pour tenir. Et hélas, également un autre membre du groupe est mort enfin relativement jeune, c'est Rick Danko, en 1999, à l'âge de 55 ans, d'une insuffisance cardiaque. Il a été suivi une dizaine d'années plus tard par Levon Helm, qui, tristement, s'était retourné contre son ancien camarade Robbie Robertson. En effet, Levon Helm l'accusait de s'être approprié sans vergogne sa mémoire du Sud, sans l'avoir crédité comme co-auteur des chansons les plus populaires signées par The Band, notamment The Night They Drove Old Dixie Down. Alors, Garth Hudson, était, je vous l'ai dit, le plus âgé de la bande, le plus expérimenté. Au début des années 60, ces gamins, dont je vous disais le plus jeune était mineur, l'ont pour ainsi dire supplié de se joindre à eux pour les aider. Ce gars, en effet, âgé de 25 ans, avait une grosse réputation dans la région autour de Toronto, il les impressionnait, et il avait, c'est ce qu'a écrit Robbie Robertson dans ses mémoires, l'allure cool d'un musicien de jazz qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des lustres. Garth Hudson avait suivi une formation classique, pas très poussée, mais enfin suffisante, hein, théorie, harmonie et contrepoint, et il possédait, alors ça c'était rare, il possédait un orgue Lowry, à double clavier, c'était une rareté à l'époque, et c'était, alors que les spécialistes m'envoient leur foudre si je me trompe, le premier orgue doté de dispositifs électroniques. C'est un orgue qu'on peut entendre notamment dans la chanson Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles en 67. Le fabricant d'orgue Lowry était le concurrent de Hammond, un fabricant d'orgue évidemment très très populaire dans ces années-là. En tout cas, Garth Hudson, issu d'une famille de musiciens amateurs, jouait de cet orgue dans le salon de pompe funèbre de son oncle, ouais, ça s'invente pas, et il a donc accepté de se joindre à ses freluquets, hein, les Hawks, le premier nom donc du band, à condition qu'il lui verse un salaire de $10 par semaine afin que celui-ci puisse leur dispenser des cours de musique. Ils l'ont ainsi nommé officiellement conseiller musical, ce qui a évidemment rassuré les parents de Garth Hudson, qui ne le voyaient pas d'un très bon œil se joindre à une formation de rock'n'roll. Alors Garth Hudson, j'ai lu ça dans une des notices nécrologiques qui lui ont été consacrées, possédait chez lui des centaines de partitions d'airs anciens, et puis il avait des connaissances d'ingénierie sonore qui lui avaient permis d'équiper un studio d'enregistrement dans la cave justement de Big Pink, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, que dire d'autre de Garth Hudson ? Eh bien, au cours de sa longue vie, il a accompagné Leonard Cohen, Tom Petty et également Roger Waters, le cofondateur de Pink Floyd. Jouer avec lui, disait Robertson, c'était comme avoir John Coltrane et l'Orchestre Symphonique de New York à disposition. En 71, Levon Helm a magnifiquement interprété avec The Band cette chanson de Bob Dylan, When I Paint My Masterpiece, une des très rares chansons nouvelles de Bob Dylan, parue au cours des années 71 et 72.
Oh, the streets of Rome are filled with rubble, ancient footprints are everywhere. You can almost think that you're seeing double on a cold, dark night on the Spanish stairs. Gotta hurry on back to my hotel room, where I got me a date with a pretty little girl from Greece. We'd spend inside the Colosseum, dodging lions and a wasting time. Oh, those mighty kings of the jungle are hard to stand to see 'em. It sure has been a long, hard climb. Train wheels through the back of my memory, when I ran on a hilltop following a pack of wild geese. Someday everything's gonna sound like a rhapsody when I paint my masterpiece. In a dirty gondola, gonna be back in the land
in Brussels on a plane ride so bumpy I almost cried. Clergymen in uniform and young girls pulling muscles. Everyone was there.
Vertigo Trip sur France Inter.
Une chanson au parfum de la Nouvelle-Orléans, vous l'avez sûrement senti jusqu'à chez vous, signée par The Band en 1975, une chanson qui figure dans le dernier bon album du groupe Northern Lights, Southern Cross, puisque, oui, c'est un an plus tard, tristement, le groupe allait décider de partir en beauté au théâtre Winterland de San Francisco au cours d'un concert exceptionnel auquel ont participé des musiciens de premier plan, tous admirateurs du groupe, Muddy Waters, Dr. John, Van Morrison, puis Bob Dylan, évidemment, un concert qui avait été mis sur pied spécialement pour être filmé par Martin Scorsese, et le film d'ailleurs a été un grand succès, il s'appelle The Last Waltz. Alors, entre Robbie Robertson et The Band, l'histoire s'est terminée, même si le groupe en fait est reparti en 1983 avec un autre guitariste, puis après le suicide de Richard Manuel quelques années plus tard avec un autre pianiste. Le dernier album du groupe, enregistré sans Robertson mais encore avec Rick Danko, Levon Helm et Garth Hudson, est paru en 98. En guise d'ultime hommage, eh bien, j'aimerais vous faire entendre Chest Fever. C'est signé par The Band en 68. Il y a une très belle intro à l'orgue par Garth Hudson. D'ailleurs, sur scène, c'était son morceau de bravoure. Un bel exemple de ce groove du Sud, très soul, la matinée de ses influences classiques, au fond un peu inattendues, que The Band, mystérieusement, était capable de transmettre.
Thank you.
commençait par Chest Fever, un morceau signé par The Band en 1968, que nous nous quittons pour ce soir en guise d'ultime salut à Garth Hudson, un musicien qui est vraiment à part dans l'histoire des musiques traditionnelles américaines et de leur renouveau, comme j'espère vous l'avoir fait sentir pendant cette émission. Alors il me reste un petit peu de temps, celui de faire deux rectificatifs. Mon camarade Olivier Nuc du Figaro m'a fait remarquer que le solo de guitare qu'on a pu entendre dans la chanson du groupe Wilco, que j'ai diffusé hier soir, était à coup sûr l'œuvre de son leader, chanteur et compositeur Jeff Tweedy, et non de son collaborateur Jim O'Rourke, dont acte. Enfin, mon camarade Sylvain Bourmeau m'a envoyé un texto pour me signaler que le titre de l'anglais Andy Bell, du groupe Ride, que j'ai aussi diffusé hier soir, était en fait une reprise d'un succès marginal il y a plus de 40 ans, signé par le groupe londonien The Passions, c'était des proche de The Cure en 81, I'm in love with a German film star. Et dont acte à nouveau. Tout de suite après, les informations, vous retrouverez bien sûr le côté club de Laurent Goumard. Il recevra ce soir Flora Hibbert, c'est une Anglaise de Paris qui sera live. Il y aura également Gisèle Pape et Lisa Ducasse.